Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à l'antenne du 93.1. Amis auditrices, amis auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale. Cette semaine, une grande partie des programmes d'Aligre FM est consacrée aux libertés associatives. Les associations sont à l'honneur sur notre antenne à l'occasion du 125e anniversaire de la loi de 1901. Les associations prennent donc aussi la parole dans notre émission. Nous recevrons dans une demi-heure Emmanuel Cadet, président de l'association Alternative. Alternative a fondé son action, je cite, sur la conviction que le patrimoine constitue un outil majeur de la cohésion sociale et du développement de la citoyenneté. D'abord, nous sommes en ligne avec Barbara Chiron, coordinatrice de l'association Les Anneaux de la Mémoire. Bonsoir Barbara Chiron.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Barbara Chiron, donc vous, cette coordinatrice, je le disais, de l'association Les Anneaux de la Mémoire. Fondée à Nantes en 1991, cette association s'engage à explorer et à faire connaître les histoires et héritages liés à la traite transatlantique et à l'esclavage, tout en travaillant à la reconnaissance et à la diversité culturelle dans le monde. Tout d'abord, Barbara Chiron, donc l'association est née en 1991 à Nantes. Alors Nantes, bien sûr, qui fut l'un des grands ports atlantiques d'esclavage. Racontez-nous, donc, dans les grandes lignes, l'histoire donc, de cette association avec ce très joli nom, Les Anneaux de l'esclavage.
Merci. Donc, effectivement, Les Anneaux de la Mémoire est né en 1991. De citoyens et citoyennes qui souhaitaient aborder l'histoire de la ville et notamment l'histoire coloniale esclavagiste. Et donc elle est née de cette volonté de rendre visible l'invisible, de rendre visible cette histoire. Et elle est née avec donc un rassemblement de personnes qui venaient de Nantes, mais aussi des Antilles, d'Afrique. Et c'est ça qui a fondé l'association, qui a sa première pierre, c'était l'exposition Les Anneaux de la Mémoire, qui a eu lieu en 1991 au château des Ducs de Bretagne et qui a accueilli un peu plus de 400 000 visiteurs, dont des personnes et des personnalités des États d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.
Alors, Barbara Chiron, vous savez, c'est un sujet, bien sûr, que j'évoque assez souvent dans cette émission. Et lorsqu'on parle donc de ce passé esclavagiste, certaines personnes mal intentionnées ou mal informées auraient tendance à dire qu'on ressasse le passé, ce qui est inexact parce que je rappelle quand même, comme vous le savez, que le Code noir a été abrogé en France. Donc le Code noir qui a été mis en place en 1685 a été abrogé il y a quelques semaines en France. C'est un événement quand même. Donc on parle bien du présent. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Parlez-nous un peu du fonctionnement, donc, avant de voir donc, les projets que vous avez mis en place et qui sont en cours. Parlez-nous de votre mode de fonctionnement, comment travaille l'équipe, comment est-ce que vit au jour le jour cette association Les Anneaux de la Mémoire.
Alors, c'est une association qui est grande par son influence sur le monde et puis auprès de d'autres structures, mais au quotidien, on est une petite équipe. Nous sommes deux salariés, donc moi-même et ma collègue Agathe à la communication. Et puis, on est accompagné d'un conseil d'administration qui est très présent, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est stratégie, développement de l'association, qui va également être présent sur les relations publiques, et voilà ce genre de choses. Donc ce sont des personnes assez mobilisées, et puis on bénéficie également d'un réseau assez important qui permet de rassembler des chercheurs, des chercheuses, des experts, des personnes de la société civile également, d'autres associations, d'autres structures, voilà, au niveau donc nantais, français, et puis au-delà de nos frontières, à un niveau européen, en Afrique et en Amérique, où on travaille notamment avec les territoires ultramarins. On a aussi beaucoup travaillé avec Haïti, à un moment où c'était facile de pouvoir développer des projets sur place. Et puis en Afrique, on travaille beaucoup au Cameroun parce que le président de l'association des anneaux de la mémoire est camerounais.
D'accord. Le fait que les anneaux de la mémoire soient situés dans la ville de Nantes, est-ce que cela a donné lieu à un accueil? Saviez-vous si ça a donné lieu à un accueil particulier? Comment ça s'articule justement le rôle, la raison d'être de cette association, sa mission, avec cette ville de Nantes qui fut jadis un des grands ports de l'esclavage?
Effectivement, il convient de le rappeler que Nantes a été un des grands ports de traite et le premier au niveau français, puisqu'il y a environ 1800 expéditions qui sont parties, expéditions de traite, qui sont parties à destination des côtes africaines. Et donc, ce n'est pas un hasard, effectivement, que l'association est née à Nantes. C'est bien pour faire transmettre, connaître cette histoire qui est encore, j'ai envie de dire, pignon sur rue, dans la mesure où beaucoup de ces immeubles du centre-ville, immeubles historiques du XVIIIe siècle, sont une trace de la traite, de cette histoire coloniale nantaise. Donc Nantes semblait, disons que c'est parce qu'il y a Nantes qui est née les anneaux de la mémoire. Et on travaille aujourd'hui beaucoup, effectivement, avec la municipalité. Et il y a d'autres belles associations qui existent sur le territoire, comme Métis à Nantes, Mémoire d'Outre-mer, et d'autres qui travaillent aussi sur ces thématiques.
J'aimerais que vous nous disiez quelques mots, Barbara Chiron, concernant des projets passés ou en cours mis en place par les anneaux de la mémoire. Par exemple, si on parle du projet création de fresques murales pour une mémoire partagée, donc l'association s'est associée donc à IALO Bénin, Institut artisanal d'orientation, pour mener un projet d'échange artistique entre les villes d'Abomey au Bénin et de Nantes, en France. Donc, c'est une collaboration qui s'est enrichie de la participation de collectifs d'artistes. Pouvez-nous donc nous parler un peu de ce projet pour illustrer un peu vos activités?
Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que nous, on travaille toujours en partenariat avec des associations, soit sur notre territoire, soit quand on va sur d'autres territoires. Donc, on ne travaille jamais tout seul. Et là, c'est un...
Ah, on a perdu Barbara Chiron. On a quelques difficultés de son, on a perdu Barbara Chiron. On va essayer donc de récupérer le son. En attendant, on va écouter un peu de musique. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le temps qu'on essaie de joindre à nouveau Barbara Chiron pour nous parler de l'association Les Anneaux de la Mémoire.
Got him home. The original was so cool, the one you know long ago. And every touch reminds you of just how sweet it could have been. And every time he kisses you, you get the taste of saccharine. It's not easy to forget me.
La musique du groupe Pulp, Bad Conversation, sur l'album Wheel of Life, le temps de patienter pour reprendre en ligne avec nous Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire. Nous avons été coupés, Barbara Chiron.
On reprend. Oui, désolé.
Mais vous n'y êtes pour rien, rassurez-vous, ce sont les inconvénients de la technique. On parlait donc de ce projet avec la ville d'Abomey. Le son, effectivement, est meilleur maintenant. Que pouvez-vous nous en dire?
Tout à fait. Alors, effectivement, on a travaillé avec une association qui s'appelle Yalo Bénin, qui est venue à Nantes pour rencontrer les acteurs culturels et dont les Anneaux de la Mémoire. Et on a choisi de faire avec eux un échange artistique. Donc, on a convié deux artistes béninoises, dont une jeune artiste graphe, à Nantes, à venir faire une fresque autour de la thématique du combat des femmes contre l'esclavage et pour la liberté, au mois de mai l'année dernière, durant le temps des mémoires. Et puis, une artiste nantaise est partie à Abomey en fin d'année dernière pour réaliser une grande fresque sur la vie de Tessie Engbé, qui était une reine béninoise, alors très connue, en même temps pas trop connue. Et donc, elle a réalisé une fresque avec l'association Yalo Bénin à Abomey. Donc, si vous avez la chance d'être à Abomey, vous pouvez la voir sur le boulevard près de l'office de tourisme. Et puis, si vous avez la chance d'être à Nantes, vous pouvez la voir sur l'île de Nantes, qui est aussi un lieu assez en lien avec l'histoire coloniale de Nantes, puisque c'est un lieu qui rappelle le lien commercial entre Nantes et les pays, certains pays d'Afrique, comme le Cameroun notamment.
Et autre exemple de vos réalisations, on peut parler également du projet Reshape, qui donc, si j'ai bien compris, c'est 24 mois d'action collective dans 7 villes européennes, coordonnées par RCN, Justice et Démocratie Belgique. Donc ça, c'est-à-dire que vos actions ne se limitent pas qu'à la ville de Nantes, on voit bien des collaborations avec d'autres villes sur le même sujet.
Complètement, et on essaye de plus en plus, pour des raisons aussi financières, de partir sur des projets européens. Et donc Reshape, c'est un projet qui va démarrer le 1er septembre prochain et qui a pour objectif de travailler sur les continuités coloniales dans l'espace public. C'est-à-dire de s'interroger, alors à Nantes, mais aussi, donc vous l'avez dit, à Bruxelles avec nos collègues, à Florence, à Rome, à Berlin, à Lisbonne et à Marseille, de s'interroger sur comment la ville, elle intègre ou pas, comment elle visibilise ou pas l'histoire coloniale européenne et notamment l'histoire esclavagiste pour ce qui nous concerne. Mais il y a d'autres associations comme l'association Ancrage à Marseille qui, elle, va plutôt aborder l'histoire du lien entre Marseille et notamment l'Algérie et d'autres pays du Maghreb, mais ce lien et comment aussi la ville s'est soit constituée avec ses populations qui ont immigré de par l'histoire, ou bien également comment les espaces publics finalement invisibilisent ou ne sont pas accueillants pour les personnes. Et donc on va s'interroger pendant 24 mois sur l'espace public, sur comment on peut faire pour que l'espace public soit un espace accueillant ou un espace où on se sente en sécurité, peu importe qui l'on soit ou d'où qu'on vienne, et comment on peut faire un peu, voilà, justement, évoluer la ville et les territoires dans cette perspective. Donc c'est un joli projet avec sept autres structures sur 5 pays. Et nous, à Nantes, on va travailler à un parcours décolonial balade décoloniale artistique. On va également proposer plutôt des webinaires avec des chercheurs d'Afrique, des Caraïbes et d'Europe. Et puis, on va également travailler sur des cartographies participatives à partir des récits des gens. Donc, par exemple, des associations, on travaille beaucoup avec des associations d'Antillais notamment, ou d'autres personnes, pour aussi savoir comment eux vivent la ville de leur point de vue, qu'est-ce qu'ils aimeraient y voir ou qu'est-ce qu'ils n'y voient pas, ou au contraire, qu'est-ce qui aussi les blesse dans l'espace public. Et je pense notamment à Nantes où il y a des représentations de figures de personnes africaines qui ont été sculptées au XVIIIe siècle et qui peuvent heurter parce qu'elles sont racistes, elles sont blessantes. Également aussi interroger les noms de rues. Enfin, voilà. Ouais.
Je rappelle donc que cette semaine, Radio Aligre, à Aligre FM, donc, dans ses programmations, accorde une grande place aux libertés associatives. Et dans ce cadre-là, je reçois donc l'association Les Anneaux de la Mémoire, en compagnie donc de sa coordinatrice Barbara Chiron. Barbara Chiron, est-ce que les Anneaux de la Mémoire proposent des programmes particuliers pour les jeunes générations? Comment intéresser les plus jeunes? Beaucoup d'entre eux sont descendants de parents issus de pays touchés par l'esclavage. Comment vous parvenez à intéresser les plus jeunes à ces thématiques? Cette histoire
C'est pas toujours facile, pour être honnête.
J'imagine.
Alors, des fois, on peut travailler avec les jeunes parce que, en fait, les professeurs les obligent à suivre des visites ou des choses. Mais là, depuis 2 ans, depuis 1 an surtout, on essaye d'être présent de plus en plus sur les réseaux sociaux et justement de faire des capsules vidéo sur, par exemple, l'histoire de Nantes, sur l'histoire. On a fait une exposition sur des portraits de femmes combattantes de l'esclavage. Et donc, ça va être de faire des vidéos sur ces femmes-là pour justement entendre aussi d'autres récits, d'autres imaginaires qui circulent autour de l'histoire de l'Europe et de l'Afrique. Donc voilà, ça va être surtout, je pense, par les réseaux sociaux et quand on fait des interventions ou quand on fait des visites auprès des scolaires, mais disons qu'ils sont plus passifs dans ce cadre-là que sur les réseaux où ils peuvent, on peut essayer d'amener un peu de dynamisme, de faire des formats courts. Voilà, on va essayer de faire comme ça, mais c'est pas facile.
Barbara Chiron, les projets que vous évoquez, le fonctionnement de l'association Les Anneaux de la Mémoire, donc pour bien fonctionner, donc nécessite des moyens humains et financiers. Quelles sont vos ressources financières, justement? Comment vivez-vous?
On vit grâce aux subventions, donc à l'argent public. Beaucoup, alors c'est la ville de Nantes qui nous soutient sur du fonctionnement, donc c'est-à-dire sur l'association. Et puis ensuite, on va répondre à ce qu'on appelle des appels à projets. Donc beaucoup au niveau européen. Là, on a fini un projet européen. On va commencer donc Reshape, dont on a parlé juste à l'instant. Et puis, par exemple, l'année dernière, on a également été sélectionné dans le cadre de la saison France-Brésil. Donc là aussi, ce sont des financements de la France. On va avoir des financements un petit peu de l'État, un tout petit peu de l'État, des financements sur des lignes, par exemple, contre le racisme, les discriminations, par le ministère des Outre-mer. Voilà, ça va être à peu près nos financeurs. On n'échappe pas aux restrictions budgétaires, comme tout à chacun sait. Et effectivement, les subventions sont de plus en plus difficiles à avoir, et donc... pour monter des projets, on a besoin de ces financements. On a assez peu de financements privés, majoritairement avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est une fondation nationale qui est hébergée à Paris, donc pas très loin de chez vous, et qui là aussi peut donner quelques petits financements.
Cette absence de financement privé, comme vous dites, c'est un choix de votre part ou bien c'est parce que aucun financeur ne s'est manifesté?
C'est pas vraiment un choix de notre part, puisqu'on essaye d'en avoir, mais c'est une thématique, l'histoire coloniale dans une perspective citoyenne, inclusive et décoloniale, ce n'est pas forcément un sujet très porteur pour les entreprises.
Voyons.
Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas une grosse structure. Et souvent, les entreprises, elles vont faire du mécénat pour être valorisées. Donc, elles vont viser plutôt des festivals qui sont connus mmh. ou qui brassent des milliers de spectateurs. Et notre association, elle est plus modeste. Mmh. Voilà. Donc, on a très peu de financement privé pour ces raisons.
Barbara Chiron, il y a un aspect important, je pense que ça préoccupe certaines associations, surtout sur une thématique qui est la vôtre. Dans moins d'un an, peut-être, je dis bien peut-être, que la France sera dirigée par un gouvernement issu du Rassemblement National, un parti xénophobe, antisémite et fasciste. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez ? Est-ce qu'il y a un risque éventuellement pour vos financements ? Comment est-ce que vous appréhendez cela ?
Eh bien, on essaye de ne pas trop y penser parce que, comme vous dites, avoir un parti fasciste, homophobe, raciste, etc., au pouvoir, ce serait une catastrophe. Et en fait, alors pour nous, j'ai envie de dire, on est une association, on fait des choses. Oui, ce serait une catastrophe, mais ce serait surtout pour toutes les personnes qui vont être victimes de discrimination et qui sont déjà victimes de discrimination, mais qui vont l'être encore plus si un tel parti arrive au pouvoir. Donc, nous, on est, j'ai envie de dire, évidemment que ce serait. Oui, on ne veut pas y penser parce qu'effectivement, je pense que ce serait extrêmement dommageable. Et tout le tissu associatif et tout le tissu militant et toutes les personnes qui sont impliquées pour faire connaître, valoriser cette histoire et puis aussi pour lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Donc, on espère que ce n'est pas le chemin que les citoyens français vont choisir.
Exactement. Nous l'espérons tous, mais il faut être vigilant quand même. Alors, puisque donc, je le disais, cette semaine sur notre radio est consacrée aux libertés associatives, de là où vous êtes par rapport à l'activité d'une association comme les Anneaux de la Mémoire, vous dites effectivement que vous collaborez avec d'autres associations en termes de partenariat. Comment ressentez-vous la vie associative à titre personnel? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un besoin, c'est vivant? Comment est-ce que vous évaluez la densité de la vie associative aujourd'hui en 2026 de votre point de vue, Barbara Chiron?
Eh bien, alors d'un point de vue, on va dire, sur le territoire nantais et par rapport à la thématique qui nous intéresse, je trouve que c'est très vivant. C'est même c'est extrêmement dynamique. On a la chance à Nantes, par exemple, là pour le temps des mémoires, on a eu plus de 70 acteurs qui se sont positionnés et beaucoup de jeunes, beaucoup d'associations, de nouvelles associations qui travaillent sur des formes visuelles avec le Togo, qui travaillent avec les Antilles, qui travaillent sur l'histoire, ou qui travaillent sur de nouvelles formes aussi de toucher la jeunesse. Moi, je trouve que c'est hyper positif. Je suis absolument ravie de voir ça. Ensuite, d'un point de vue national, alors j'ai peut-être moins de visibilité parce que c'est une thématique qui est quand même assez... rattaché à l'histoire des villes, donc Nantes, Bordeaux, Le Havre, etc. Mais d'un point de vue national, j'ai quand même l'impression qu'il y a un intérêt parce que nous, quand on prête des petites expositions, là par exemple, on a une exposition qui était à Montpellier, qui va ensuite partir en Bretagne, etc. Donc je trouve quand même que les citoyens et les citoyennes s'investissent sur des sujets qui les touchent. Et là, depuis, je pense, depuis le meurtre de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour l'histoire coloniale parce qu'on se rend compte que c'est une histoire qui continue de façonner nos représentations, nos imaginaires, et puis malheureusement qui continue aussi de véhiculer du racisme et des discriminations. Et donc, ce mouvement Black Lives Matter a complètement changé notre façon de voir. Et puis, je trouve vraiment à amener d'autres acteurs sur le terrain pour parler de choses d'un point de vue très contemporain. Et je trouve que c'est extrêmement positif.
Voilà. Pour finir, Barbara Chiron, est-ce que vous, si à titre bénévole, une des personnes souhaite rejoindre l'association, est-ce qu'on peut faire des choses à titre bénévole au sein des Anneaux de la Mémoire? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut vous aider, ceux qui le souhaitent?
Alors, vous pouvez, c'est, effectivement, vous pouvez nous aider en adhérant à l'association. Adhérer, ça ne veut pas forcément dire participer, mais pour nous, c'est un soutien et ça nous fait toujours un grand plaisir d'avoir des soutiens, des adhérents qui rejoignent notre structure. Et puis, pour les personnes qui souhaitent soit porter des projets, soit venir s'intéresser au projet et donner leur avis, ou venir aussi nous aider sur certains événements, c'est tout à fait possible. On peut participer à la fois au conseil d'administration qui se réunit une fois par mois, ou proposer de s'investir. Par exemple, on a des chercheurs qui vont plutôt nous aider à corriger ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux, parce qu'on fait bien attention à pas dire n'importe quoi. Donc, comme nous, on n'est pas historienne à l'association, on a des chercheurs qui s'investissent pour nous dire « Ah bah attention, ça c'est pas tout à fait juste. » Voilà. Ça peut aussi être de l'aide un peu en nature, nous aider à faire du montage vidéo. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses en fonction du souhait des gens, du temps qu'ils veulent y passer, de ce qu'ils aiment faire. Voilà, vraiment, c'est adaptable. Et vous pouvez nous contacter. Il y a toutes nos infos sur notre site internet.
Sur le site internet, c'est ça.
Sur le site internet anneaudelamémoire.org, ou sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook.
Merci Barbara Chiron.
Merci à vous. Merci pour votre invitation.
Je rappelle que vous êtes donc coordinatrice de l'association Les Anneaux de la Mémoire, qui est basée à Nantes. Merci infiniment.
Tout à fait. Merci à vous. Excellente soirée.
Merci, bonne soirée. Golden, la voix de Jill Scott sur Aligre FM 93.1. Vous êtes bien dans version originale et je rappelle que cette semaine, donc une grande partie des programmes d'Aligre FM est consacrée aux libertés associatives. Les associations sont à l'honneur sur notre antenne à l'occasion du 125e anniversaire de la loi de 1901. Je reçois donc Emmanuel Cadet, président de l'association Alternative. Bonsoir Emmanuel Cadet.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Je rappelle donc qu'Alternative a été créée en 2010 par des professionnels de la conservation, restauration d'objets patrimoniaux et de la gestion de projets culturels en réponse à certains de leurs questionnements. Pour faire simple, vous allez nous dire plus en détail donc, le but de l'association. Rappelez-nous donc, Alternative, quelle est sa mission principale et ses actions?
Oui, alors Alternative travaille sur les usages sociaux du patrimoine. Donc en fait, on a commencé en 2010 en se disant que, à partir aussi d'expériences qu'on avait eues un peu en dehors de la France, donc on est allé regarder des choses qui se passaient plutôt dans les milieux anglo-saxons en fait, où on regardait des pratiques participatives et inclusives qui n'existaient pas dans les musées ou dans les pratiques patrimoniales. Et donc assez vite, on s'est intéressé, nous, à mettre au cœur de nos projets des jeunes bénéficiaires et à construire avec eux, en fait, des projets qui interrogeaient certains patrimoines. Donc assez vite, je dirais en 2011-2012, on s'est intéressé à tous les objets qui avaient été pris souvent en fait en contexte coloniaux par la France, donc dans différents continents, et on s'est interrogé à la façon dont ils étaient arrivés dans ces musées. Donc bien avant la démarche de Macron qui cherchait à rendre le patrimoine africain à l'Afrique, nous on a travaillé déjà depuis donc voilà dans ces années-là. Et donc ce programme, il demandait donc à des jeunes. Alors quand on parle de jeunes, on peut peut-être un peu préciser. Nous on travaille donc avec des personnes qui habitent à l'est de Paris et dans le 93, qui sont plutôt des jeunes issus de quartiers politiques de la ville et qui en fait, donc sur du hors temps scolaire, on les amène en fait à participer à des projets qui sont souvent au départ un séjour culturel avec donc un but un peu précis, donc était donc on parlait de Nantes là tout à l'heure, mais voilà, on a eu tout un programme qui les amenait dans ces villes pour aller voir ce qu'il y avait dans les musées de ces villes, mais aussi pour questionner la longue histoire de la France avec ses autres continents, et notamment voilà, tout ça effectivement c'est aussi pour pouvoir expliquer notre société, c'est-à-dire pour pouvoir expliquer les rapports, voilà, le racisme qui existe, le racisme systémique même qui existe, comment il a été construit et comment on peut voir dans toutes ces histoires. Alors c'est vrai que les villes portuaires, elles sont très intéressantes pour ça, parce qu'en fait on peut remonter très tôt dans ces premiers voyages qui allaient explorer le monde. Nous on a regardé aussi toute l'articulation entre ces premières explorations, l'installation aussi du commerce transatlantique, donc le rôle de ces villes dans cela, mais aussi après, quand on a eu l'abolition de la traite et de l'esclavage, comment ces villes se sont aussi investies dans le Second Empire colonial. Et aussi, après les indépendances, le lien avec la migration, parce que souvent, les populations qui sont arrivées en masse sont aussi liées à ces ports. Voilà, donc ça, c'est quand même très important pour ces jeunes. Alors forcément, nous, on touche beaucoup de jeunes qui sont issus de la diaspora, de diasporas diverses, mais étant donné, enfin, vu les villes dans lesquelles on était implantés, donc je parle beaucoup d'Est Ensemble, et puis 19e, 20e, un peu 13e aussi, on touchait beaucoup de jeunes en fait issus de la diaspora subsaharienne, mais bon, pas uniquement, mais voilà. Et donc on a eu effectivement, puisqu'il y avait dans notre équipe, il y a à la fois des gens qui font l'accompagnement jeunesse, donc qui sont voilà, qui sont coordinateurs jeunesse, etc. Et puis des jeunes, des personnes qui sont plutôt historiens ou historiens de l'art. Donc l'idée, c'est de voir comment on construit, en fait, avec ces jeunes-là, un espace qu'on peut appeler comme une zone de contact qui permet de les amener à questionner, mais vraiment très... Enfin voilà, c'est eux qui sont actifs. Il n'y a pas du tout de savoir descendant. On construit avec eux. Et cette zone de contact, c'est la zone entre l'institution qui a des données, des objets, des archives, et ces jeunes qui vont interroger ces parties d'histoire, en fait, et qui vont créer eux-mêmes un récit qu'on accompagne, qui se traduit soit par des films, soit par du théâtre, et puis aussi, très dernièrement, une exposition aussi. Voilà.
C'est-à-dire, les jeunes voient donc ces œuvres ou ces objets, qui sont en quelque sorte des traces de liens des pays ex-colonisés avec la France, et à partir de là, il crée un récit sous la forme qu'il le souhaite. Ça peut être un texte écrit, ça peut être une... Qu'est-ce que ça peut être, ce récit-là?
Oui, alors, en fait, à partir de... Alors, si on se concentre sur les objets, parce qu'on a eu différents sujets, mais si on se concentre sur, effectivement, les biens culturels qu'on a dans les musées, donc il peut y avoir des projets un peu individuels, donc c'est-à-dire un jeune participant qui choisit un objet et qui va l'interroger. Donc, il peut l'interroger à la fois pour comprendre quel était son usage premier. Donc, en fait, on fait appel à des personnes ressources qui sont capables d'expliquer, voilà, à quoi servait... ça peut être ce talisman, ce collier, ce voilà. Et puis ensuite, après, c'est surtout ce qui va l'intéresser assez vite, c'est de savoir comment il est arrivé ici. Est-ce que on est dans un contexte de domination? Est-ce que c'est, par exemple, donc les jeunes, ils sont très sensibles aussi à la question de la justice. Donc, est-ce que c'est des objets qui ont été mal acquis, ou est-ce que c'est des objets qui ont été donnés ou achetés? Donc, on se pose beaucoup la question de ça, en fait, puisque finalement les musées, ça reste des institutions qui ont un fort quota, qui ont un quota très très rassurant, en fait, pour les populations, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux contenus qui sont présentés dans les musées, alors que quand on cherche un peu, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites et qui sont, ou qu'on a choisi de dire d'une certaine façon. Bien Donc sûr. En fait, là, voilà, on déconstruit un peu avec eux. Et bien sûr, on se base aussi sur d'autres personnes qui sont, qui ont fait des contenus historiques très spécialisés. Ou alors, carrément, on va aussi vérifier dans certaines archives avec eux pour qu'ils puissent s'assurer, enfin, pour qu'ils construisent un récit qui soit juste aussi, qui ne soit pas... Et après, c'est avec leurs mots et c'est surtout avec leurs questionnements. Et c'est ça qui fait, finalement, une recherche différente. Et alors, petit à petit, après, on existe depuis 15 ans maintenant, un peu plus, on voit que, on s'est aperçu que, en fait, on produisait une recherche qui n'était pas celle de chercheurs académiques et qui n'était pas non plus celle de musées. Et donc, petit à petit, on s'est orienté aussi sur des programmes de recherche. Voilà, donc en fait, c'est maintenant, par exemple, l'exposition qu'on a fait circuler l'année dernière au Sénégal, elle a été vraiment portée par ces jeunes et elle est assez innovante dans la façon dont elle travaille, on va dire, la provenance d'une collection.
Et justement, comment est-ce que... Alors, lorsqu'on vous écoute, et Emmanuel Cadet, on comprend que les jeunes que vous accompagnez donc s'investissent. Comment est-ce que vous percevez leur implication dans ces projets qui sont quand même, où ils ne se contentent pas de visiter un musée, ça va plus loin que ça. Comment est-ce qu'ils s'impliquent dans ces projets? Quand ils prennent en main ce récit, qu'est-ce qu'ils en font?
Alors, je dirais que c'est des processus qui sont propres à chacun. Et nous, on a toujours à cœur de jamais forcer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, les personnes qui rentrent ou qui participent à un projet, ils en sortent, ils en rentrent quand ils veulent. Voilà, il y a pas de, c'est pas du, enfin voilà, on ferait pas ça dans un cadre scolaire. Et donc, c'est vrai qu'on crée aussi voilà, on crée une ambiance, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sentiments aussi d'appartenance à un groupe aussi, quand on, parce qu'en fait, ils cèdent et il y a des temps forts de rencontres. Surtout quand on se déplace, beaucoup sont partis avec nous aussi au Sénégal ou au Bénin, travailler avec des jeunes de ces pays-là sur certains projets. Et donc, il y a des compétences et des acquisitions de savoir qui se font aussi parce qu'il y a une mobilisation du groupe qui c'est une autre façon d'apprendre en fait quand on est en groupe, parce qu'on passe pas forcément uniquement par l'écrit, on passe, ou alors il y a des gens qui vont, comme on travaille en groupe, il y a des gens qui vont être très forts en écrit ou en lecture et qui vont partager ça, et d'autres vont s'en accaparer autrement, vont être peut-être plus forts en, je sais pas, en expression, en création, etc. Et donc c'est vraiment le projet du groupe qui va porter l'ensemble. Et puis je pense que ce qui les motive, c'est parce que ça les touche finalement très profondément, ces histoires-là. C'est vrai que votre interlocutrice précédente évoquait le moment de Black Lives Matter de l'été 2020. C'est vrai que nous aussi, ça a été un... Voilà, on a beaucoup réfléchi à ce moment-là.
Il y a eu vraiment un avant et un après?
Alors, nous, l'avant et l'après, ça a été vraiment lié aussi au rapport Savoie-Sarre, qui est donc le rapport qui avait commandé... c'est un rapport commandé par la présidence, mais qui a, en fait, montré des pistes pour... restituer des collections qui ont été prises en contexte
colonial.
Donc ça pour eux, ça a été, étant donné qu'on avait énormément travaillé là-dessus, on avait été enquêtés, donc en fait ils sont cités aussi dans ce rapport, et ils sont allés en parler aussi au sommet Afrique-France, et donc pour eux, il y avait eu déjà quelque chose de très fort. Mais c'est vrai que et nous, on avait travaillé une pièce de théâtre pendant tout le Covid. En fait, on avait travaillé par tout petits groupes, par deux, trois. On essayait quand même de maintenir le lien. Et cette pièce de théâtre, elle racontait aussi des histoires d'objets du Cameroun et des histoires de restitution, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. C'était une pièce de Arnaud Bertina. Et en fait, ça a pris, ça les a amenés par exemple à intégrer une petite scène, enfin une scène de violence policière dans la pièce de théâtre. Et c'est des choses qui sont très liées, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit qu'on a un État qui ne respecte plus par sa police, en fait, toutes les personnes qui vivent sur le territoire, et que les musées sont détenteurs d'un passé officiel et que ce passé est mal raconté finalement, ou en tout cas détient des choses qui ne devraient pas être là. Donc du coup, c'est un lien aussi assez facile à faire, en fait, finalement. Et je pense aussi à tous les mouvements de déboulonnage de statut. Donc aussi, nous, on a beaucoup travaillé aussi sur ces questions de statut colonial. Et voilà, je pense que c'est là où c'est émancipateur pour eux, c'est qu'ils arrivent à mettre des mots sur des violences et sur des histoires. Et donc, ils sont en mesure de discuter assez loin, en face à face, avec quelqu'un qui va leur opposer des arguments, peut-être politiques même. Voilà.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1. Je reçois Emmanuel Cadet, président de l'association Alternative. Alors, vous faisiez allusion, Emmanuel Cadet, au rapport
Sarre-Savoie.
Je rappelle que c'est un livre qui existe sous le titre « Restituer le patrimoine africain », écrit donc par Félouine Sarre et Bénédicte Savoie. On trouve aux éditions du Seuil. Justement, dans les projets que vous avez développés, il y a « Retour sur Benin City ». Alors, je reste sur Bénin parce que c'est le lien entre, bien sûr, le colonialisme et l'esclavage avec ce pays est très fort. Que pouvez-vous nous dire de ce projet?
Oui. Alors, En fait, en 2016 et 2017, on travaillait donc sur ces objets. Et en 2017, on était en lien avec une conservatrice qui s'appelle Nanette Snoep, qui était conservatrice des musées de Saxe à Dresde et à Leipzig. Et donc avec Bernard Müller aussi, qui avait accompagné les jeunes à réfléchir sur la collection qu'il y avait dans ce palais, qui avait donc c'était une collection de RDA, enfin d'Afrique de l'Est, enfin d'Allemagne de l'Est, mais qui avait beaucoup d'objets qui n'étaient pas forcément liés à l'histoire de l'Allemagne, et notamment des objets de Benin City, donc du Nigeria. Et donc l'histoire de Benin City, elle est, enfin pour nous, on a choisi de travailler là-dessus parce que c'est finalement un énorme pillage en fait par les Britanniques du palais de Benin City, qui a lieu qui est parallèle en fait au pillage que les Français ont fait à Dahomey, au Bénin, etc. Donc c'est le principe, c'est on est en lien avec ces royaumes côtiers, et puis à un moment donné on va profiter en fait d'un petit souci pour les attaquer militairement et occuper très très vite tout l'espace, parce qu'en fait il faut aller vite, puisqu'en fait on est sur un temps où on est en train de découper l'Afrique, se partager l'Afrique avec les différents Européens. Donc on est après la conférence de Berlin. Et donc dans cette rapidité, on a une violence extrême. Et dans cette violence, il y a effectivement tout est permis, donc, et notamment de prendre toutes les choses qui appartiennent à la population. Et là, on parle de biens, de trésors royaux, puisqu'en fait, ce sont des objets c'est des choses qui étaient des biens culturels qui étaient conservés dans les palais et qui étaient visibles que par des gens très proches de l'Oba, de la cour finalement. Et c'est donc des bronzes, donc c'est des plaques, c'est des objets c'est des biens qui étaient rituellement, qui représentaient des rois par exemple. Donc c'est une création qui avait 400 ans d'histoire et dont certaines racontaient aussi, c'est une façon pour eux de raconter leur histoire. Et donc c'est un pillage énorme qui arrive, alors la grande majorité arrive directement à Londres. Les Anglais en gardent une partie pour eux et puis font une grande vente aux enchères. Donc c'est la première grande vente aux enchères d'Afrique. Et donc ce qui fait que ces objets sont en fait répartis dans tous les musées européens. Enfin, on en retrouve pratiquement dans tous les musées européens, et puis on va en retrouver même après ailleurs. Donc ces objets, en fait, cette collection, elle était pour nous symptomatique du pillage européen des collections africaines. Voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi de travailler sur Benin City. Alors, Back to Benin City, c'était aussi, nous, on pense au retour de cette collection, parce qu'en fait, c'était demandé depuis longtemps. Et donc, on a pu la jouer à Vienne, on a pu la jouer à Dresde, à Cologne, on a essayé de la jouer, on l'a joué au Musée d'Aquitaine, on a essayé de la jouer à Paris, on a pu trouver une salle qu'à Montreuil, enfin, au Musée d'Histoire, voilà.
Et tous ces, alors bien évidemment, puisqu'il s'agit donc de parler de la vie des associations également, et Manuel Cadet, tous ces projets donc nécessitent donc une équipe, des moyens humains, des moyens financiers. Comment vous organisez, quels sont vos besoins, quelles sont vos limites, comment est la vie de votre association par rapport à vos besoins matériels, humains et financiers?
Alors, nous, il y a 3 ans, on était 5, en fait, dans l'association. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un salarié. Donc, on fait partie de ces associations qui ont subi des coupes énormes. Donc, qui dit une personne, dit donc beaucoup moins de personnes aussi pour aller chercher aussi d'autres projets, etc. Donc, on est dans une phase très compliquée. Mais alors, Nous, on fonctionnait effectivement aussi avec déjà des gens qui nous accompagnaient en bénévole, parce qu'en fait, ils étaient impliqués dans ça. Mmh. Et on se dit... Alors, ce qui nous les subventions, en fait, c'était des subventions de mobilité jeunesse, donc qui relevaient de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, en fait, c'est des financements liés aux personnes qui sont sur ces quartiers prioritaires de contrat de ville. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. On a des financements un peu de CAF, on a un peu de financement mobilité européenne. Et après, on a des mobilités aussi en solidarité internationale quand on part en Afrique. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, on émarge maintenant un petit peu sur des programmes de recherche aussi. Mais on va se tourner vers plus de bénévolat et on va du coup moins faire de projets en mobilité. Voilà.
Se concentrer sur peu de projets.
Voilà.
Justement, le fait de se limiter, c'est-à-dire ce qui vous, en dehors donc de ces aspects matériels et financiers, quelle autre menace, c'est peut-être un peu comme mot, quels sont les autres aspects qui peuvent nuire au fonctionnement d'alternatives?
Alors, nous, forcément, on mâche pas nos mots et on travaille sur des sujets qui deviennent des sujets de plus en plus politiques,
oui.
En fait. Donc... Le risque, c'est que notre association soit dissoute, peut-être, en cas extrême. Mmh. Le risque, c'est qu'on n'ait plus du tout aucune subvention publique. Et voilà, je pense que on a... Oui, nous, on est par contre très conscients de ces risques-là. Mmh. Et donc, Voilà, donc on s'est dit cette année, on va surtout développer, on va compter nos forces en fait, et on va voir qui veut bien nous accompagner bénévolement, c'est-à-dire voilà, qui croit en ce projet et souhaiterait qu'on avance, mais avec un minimum de financement. Donc ça veut dire... Alors, on a eu un gros projet l'année dernière qui a aussi été très coûteux, où on a réussi à amener une petite collection de Dunkerque qui a été trouvée sur un champ de bataille au Sénégal, et on est arrivé à la faire circuler au Sénégal et à discuter de l'histoire de cette collection avec des communautés. Enfin, je pense qu'on a abouti à un projet assez important. Et en fait, cette année, ce qu'on s'est dit, c'est que il vient d'avoir une loi là qui est sortie et qui est à la suite de deux autres lois sur la question de la restitution des biens mal acquis. Donc la loi cadre qui concerne les biens culturels qui vient de sortir, elle n'est pas forcément satisfaisante parce que justement elle ne concerne pas les biens militaires et elle ne concerne pas les biens archéologiques. Et puis aussi parce qu'elle met en place des commissions qui sont pas très définies et justement qui ne font pas du tout la place à la société civile. Que ça soit ici ou dans les pays demandeurs. Donc en fait, on a constitué par exemple quelque chose qui ne coûte pas cher, mais qui est en fait du temps, c'est-à-dire les jeunes sont en train de se mobiliser. Donc en France, tous les jeunes qui ont participé à ces questions-là sont en train de se mobiliser pour essayer de penser à un plaidoyer, en fait, qui serait adressé à ces futurs programmes politiques et qui permettrait de mettre en avant toute l'expérience qu'on a eue sur cette question de restitution et d'interroger la loi en faisant cas par cas des exemples, en disant voilà, cette chose-là, si on parle du fait que les choses mal acquises ne devraient plus être dans les musées, si on prend cet objet, qu'est-ce qu'il en est? Si on prend cet objet, qu'est-ce qu'il en est, etc. Donc ça sera la voix des jeunes, accompagnée par des professionnels très différents, mais qui viennent tous bénévolement. Et au Sénégal, j'étais avec eux cet après-midi, l'idée, c'est aussi qu'eux, ils réfléchissent sur qu'est-ce qui serait important pour eux comme type d'objet qui reviennent, parce qu'on leur a déjà partagé beaucoup de corpus, et comment ils peuvent aussi interpeller leurs décideurs et leur tutelle, enfin les tutelles qui concernent le patrimoine. Voilà.
En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sensibles aux actions d'alternative, je les renvoie donc à votre site internet, peut-être des vocations de bénévoles pour renforcer votre travail. Merci beaucoup Emmanuel Cadet.
Je rappelle donc
que vous êtes président de l'association Alternative. Donc c'est une émission dans le cadre de la semaine consacrée aux libertés associatives. Et j'étais également en ligne avec la coordinatrice de l'association Les Anneaux de la Mémoire. Donc Alternative et Les Anneaux de la Mémoire, donc ce sont les deux associations qui, ce soir, dans version originale, nous ont parlé de leur action pour illustrer la vivalité donc des associations aujourd'hui en France. Merci à René Clancy qui était à la réalisation technique ce soir. Dans un instant, vous retrouvez nos programmes habituels, Dancehall Reggae Vibes, et à 22h30, Audiométrique. Passez un bon week-end, une bonne soirée à l'écoute d'Aligre FM et passez de bonnes vacances. À bientôt.
Version originale, Patrick, Léon Émile. Yeah. Yeah. Yeah.
Drugs got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching base with them bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster send us the corner hugger. Seeing this nigga shining and annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cocker. Roaches like Tony got Montana motors. You bought 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we loking. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. The buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look ready, you cold nigga.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.